Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Lublin et aujourd'hui, pour aborder le sujet du djihadisme en ligne et de la lutte face à celui-ci, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Binder, consultante en cyberstratégie, cofondatrice et animatrice du JOS Project, qui observe et analyse la propagande en ligne des groupes djihadistes. Le plus simple peut-être pour voir ce que vous faites est peut-être de se rendre par exemple sur la page Twitter Djihadoscope, où on comprend très bien ce qu'est cette activité de monitoring ou d'observation, disons, qui permet d'avoir facilement une vision d'ensemble et une compréhension à la fois des formes, mais aussi des flux et des reflux d'un discours extrémiste et djihadiste, qui est souvent situé dans certains recoins du web, parfois en arabe aussi, donc pas forcément accessible pour un observateur extérieur. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour.
Je vais simplement commencer par dire que, comme c'est périodiquement le cas, on pourrait avoir l'impression qu'on est un peu hors du cœur de métier du Collimateur, qui réfléchit premièrement aux faits militaires et stratégiques, et qui donc s'étendrait en dehors de son domaine. Mais évidemment, c'est loin d'être le cas. Ou plutôt, le vrai phénomène, c'est que ce domaine lui-même s'étend, et il s'étend à ce qu'on appelle la lutte informationnelle, notamment sur Internet, puisque cette lutte informationnelle est un sujet de plus en plus central en général, et en particulier pour les armées qui en prennent leur part. Ça s'arrête d'ailleurs évidemment pas au djihadisme, mais je pense qu'on aura bientôt l'occasion de reparler de ces notions de guerre de l'information, notamment parce qu'il y a un ouvrage sur le sujet qui sortira en début d'année prochaine. On peut d'ailleurs ajouter que, plus largement, ce combat dans la sphère informationnelle rejoint entièrement des réflexions qu'on aborde régulièrement dans le podcast. Par exemple, la notion de guerre hybride, qui se situe à la fois dans l'espace physique et sur des terrains extérieurs, mais aussi dans le domaine de l'information. Que bon, on peut pas, par exemple, considérer qu'on est en guerre contre l'État islamique sans lui faire la guerre là où il recrute et là où il agit largement, c'est-à-dire sur Internet et sur les réseaux sociaux. Je termine enfin en disant qu'il n'y a rien de nouveau à ça dans le fond et que dans un contexte de conflit asymétrique, c'est toujours l'objectif de, avec l'expression célèbre, de gagner les cœurs et les esprits, objectif qui est central, comme on en a déjà souvent parlé avec Elie Tenenbaum de l'IFRI par exemple, et que dans des sociétés numériques comme les nôtres, gagner les cœurs et les esprits, ça se fait évidemment aussi et surtout par Internet désormais. Dernier point, je vais préciser à toute fin utile qu'on enregistre cette émission le 16 novembre, on ne sait jamais. D'ici la diffusion, si jamais il se passait quelque chose de marquant dans un sens ou dans l'autre, dans le domaine du djihadisme et de la lutte antiterroriste, évidemment, on parle ici du panorama à la date du 16 novembre. Donc Laurence Binder, la première question que je voudrais vous poser, c'est de savoir comment vous en êtes venu à vous pencher sur ce problème donc du djihadisme, des discours extrémistes et notamment djihadistes en ligne, puis vous y engager directement par ces activités d'analyse et d'observation. C'est-à-dire, pourquoi vous avez voulu mettre un doigt dans la machine, en quelque sorte, et puis ensuite, pourquoi vous avez choisi ce mode d'action, et quelle efficacité, disons, spécifique il a pour vous ?
Oui, écoutez, moi je viens du domaine du conseil en stratégie, donc domaine qui n'a proprement rien à voir avec ce sujet-là. Et à titre personnel, ça faisait un long moment que je m'intéressais aux problématiques de violence collective, de radicalisation, mais vraiment purement à titre personnel, avec des lectures d'ouvrages. Je crois que l'année 2012, puis l'année 2015, avec les attentats de Mohamed Merah et 2015 et les attentats de janvier, m'ont fait questionner sur le sens de tout ça et la façon dont moi je pouvais mettre à profit mon expertise de conseil en stratégie dans cette engagement-là et cette analyse-là de la propagande djihadiste en ligne. Alors j'ai commencé par rejoindre le Centre d'analyse du terrorisme où j'ai travaillé sur le financement de l'État islamique notamment. Et par souci d'avoir accès à des, on va dire, des sources primaires, à défaut de pouvoir aller sur zone et aller sur le terrain, j'ai commencé à regarder ce qui se passait sur Internet et à essayer de suivre ces comptes, justement, pour avoir accès à ces sources primaires.
Alors, on va en reparler, de la problématique des sources, de comment on y accède, de ce qu'on y trouve, et puis de ce que c'est de les observer, de les rendre visibles, et dans quelle mesure il faut le faire, quelle efficacité, disons ça. Mais faut peut-être commencer par prendre un peu de champ historique sur la question, parce que, comme j'ai dit, dans ces luttes asymétriques, la question du recrutement et de l'engagement est évidemment centrale pour le côté le plus faible militairement du conflit, et pour se contenter de cette histoire appliquée au mouvement islamiste et djihadiste, on peut dire juste que la question de la communication et de la diffusion de l'information est très ancienne, bien avant l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, puisque c'était déjà une préoccupation, même encore avant les débuts d'Al-Qaïda, c'est-à-dire à l'époque de la lutte islamique contre les soviétiques en Afghanistan.
Tout à fait. La question de la diffusion du message est tout à fait primordial, et la question de la maîtrise de la communication aussi. Et c'est pour ça que dès l'avènement d'Internet, en fait, les groupes djihadistes, Al-Qaïda à l'époque, qui était en monopole, a tout de suite perçu l'opportunité qui était présentée par Internet en termes de maîtrise de la communication. On se situe en début des années 2000, on était à une période, donc après le 11 septembre, où ça devenait compliqué, impossible de rejoindre les camps d'entraînement, où les lieux de prédication et de recrutement étaient surveillés. Et donc, Internet comportait vraiment une aubaine en termes d'instantanéité, en termes de portée d'audience.
C'est-à-dire, c'était plus simple que l'époque où Ben Laden faisait passer des cassettes VHS de ses discours, quoi.
Exactement. Donc, en termes de portée d'audience, en termes de relatif anonymat, en termes de bas coût également. Mais effectivement, comme vous le dites, je crois que un des éléments principaux apporté par Internet, c'est la désintermédiation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Ben Laden, pour faire passer une revendication, un message, une interview, passait par des grands médias. Et donc, avec des filtres éditoriaux. Internet permet, à contrario, de s'affranchir.
C'est-à-dire, par exemple,
Al
Jazeera pouvait diffuser ou ne pas diffuser une vidéo, puis ensuite elle pouvait être reprise ou pas reprise par CNN, mais en coupant des bouts, en montrant des choses ou pas montrant des choses. Et il n'y avait pas vraiment moyen pour Ben Laden de contourner, de faire dire de montrer ce qu'il avait envie de montrer, si ce n'est à diffuser la VHS elle-même, quoi. Il fallait, il y avait toujours le problème de comment est-ce que ça va être coupé, recoupé par les différentes chaînes d'information ?
Exactement. Donc là, il y avait la maîtrise du message depuis sa construction, sa production, jusqu'à sa diffusion. Et c'est ça, je crois que le grand plus permis par Internet, c'est d'avoir désintermédié cette relation et d'avoir rendu accessible de façon très directe à une large audience ces contenus-là.
Alors c'est intéressant parce que évidemment, dans ces trucs-là, on pivote toujours autour de la date de 2001 et du 11 septembre. Internet était déjà là, évidemment, avant. Il y avait déjà des sites djihadistes avant le 11 septembre. Et dans une certaine mesure, le 11 septembre, puis la séquence 2001-2003, c'est évidemment un grand succès pour les djihadistes à plein de niveaux différents, mais c'est aussi le début des problèmes. Naturellement, puisque un site internet, ça peut se faire enlever d'internet, ça peut tomber, il y a plein de choses qu'on peut faire contre un site internet. Donc comment est-ce que cette pépinière djihadiste en ligne naissante survit au fait que il est quand même pas possible de prendre des mesures? À partir du moment où on se met à surveiller, à s'inquiéter des sites djihadistes, en fait ils se mettent à tomber les uns après les autres assez logiquement.
Oui, tout à fait. Ça, on va le voir également actuellement. Mais effectivement, à l'époque, on avait déjà des sites qui tombaient. Mais de l'autre côté, on se heurtait à des personnes qui étaient croyants, c'est-à-dire, je ne parle pas d'une croyance du fait religieux, mais je parle d'une croyance forte en cette idéologie, et donc qui étaient extrêmement résilients. Et en fait, la résilience sur Internet existe, la résilience du message existe depuis toujours, et s'est exprimée sur Internet. Donc quand un site tombait, il était reconstruit. Donc on a effectivement eu d'abord les premiers sites internet, puis ensuite les premiers forums, ce qui apportait un contact supplémentaire direct avec l'audience. D'abord en arabe, ensuite une partie de ces forums ont été traduits en langue vernaculaire, en anglais, en français, et puis ensuite on a vu des forums totalement en anglais ou totalement en français, en particulier Ansar Alak, qui était un des forums phares francophones et dont les administrateurs ont été jugés en 2018.
Ça a pris un moment quand même.
Ça a pris un moment. Et au milieu des années 2000 sont apparus les réseaux sociaux. Et alors là, les djihadistes étaient assez rétifs en fait à l'époque à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Pourquoi ? En particulier parce qu'ils étaient hébergés aux États-Unis et qu'ils avaient peur de se faire infiltrer par les services américains, par la CIA. Et donc ils ont mis vraiment un petit moment avant d'adopter les réseaux sociaux. Et ce qu'on a vu, c'est au début de la guerre civile en Syrie, vers 2011, un afflux de jeunes européens, de jeunes maghrébins, qui eux-mêmes étaient rompus à l'usage de ces réseaux sociaux, et qui les groupes se sont fait en quelque sorte rattraper par la modernité, et force est de constater qu'ils ont su tirer leur épingle du jeu. De ce phénomène des réseaux sociaux.
Du coup, on est déjà à ce... On arrive à un peu... On a passé rapidement, mais sur cette décennie, donc la décennie 2000, globalement, où il y a une réorientation, un redéploiement, disons, vers ce qu'on a appelé, c'est une expression qui est problématique, le web 2.0, c'est-à-dire à la fois quelque chose de plus participatif, plus horizontal, plus décentralisé. Mais du reste, ce qui suit dans une assez large mesure le mouvement et les évolutions d'Al-Qaïda, de l'organisation elle-même, qui est passée de quelque chose de très centralisé, très polarisé, à une espèce de galaxie complètement, pas complètement, mais largement horizontale dans cette même décennie. Mais donc on arrive à ce moment, à ce fin de la décennie 2000, début de la décennie 2010, et il y a une sorte de culminement, il semble, dont vous avez déjà commencé à parler, de cette activité en ligne, à partir de 2011, 2012, 2013, 2014, c'est-à-dire dans le contexte de la guerre civile syrienne, puis de la montée de l'État islamique, et ça correspond donc à l'existence géographique de Daesh dans la zone irako-syrienne. Alors, on peut dire déjà, c'est d'abord parce que c'est important symboliquement, et d'un point de vue de ressources humaines aussi, en quelque sorte, pour eux, de diffuser un discours en ligne et de recruter comme ça. Et puis aussi parce que c'est un moment où ils ont les moyens pour investir là-dedans, très concrètement, puisqu'ils ont des moyens financiers. Donc comment est-ce que ça se construit, comment dire, cette espèce de califat informationnel, enfin de califat numérique en quelque sorte sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire, est-ce qu'ils mettent en place des choses? Quand l'État islamique arrive, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce qu'ils construisent quelque chose de différent? Ou est-ce que, bon, ils profitent largement du travail de fond et, disons, de la présence djihadiste en ligne qui s'est construite un peu à bas bruit pendant la décennie précédente?
Alors d'abord, je vais revenir sur un fait important que vous avez mentionné, qui est effectivement que cette montée en puissance du web 2.0 a correspondu au paradigme du leaderless djihad, du djihad sans leader, et de l'autonomisation des cellules. Le fait que des personnes en global puissent accéder à ces contenus-là, évidemment, ça contribue à cette autonomisation et cette appropriation, en fait, à la fois de l'idéologie, mais également de tutoriels plus pratiques, plus pragmatiques.
C'est-à-dire à partir du moment où tout le monde peut se former en ligne, on a moins besoin de camps d'entraînement, quoi.
Exactement. Alors, faut pas non plus exagérer ça ne se substitue pas à un camp d'entraînement, bien sûr. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'écrits qui ont été produits sur cette thématique, sur l'université du djihad en ligne. Il n'y a jamais eu quelque chose de vraiment de cohérent et de construit. Ça a toujours été un petit peu éparpillé, pas très bien organisé, et heureusement d'ailleurs. Et du coup, évidemment, ça ne remplace pas un camp. Néanmoins, ça reste une courroie de transmission entre une offre idéologique et une demande de cette idéologie auprès de jeunes en Europe ou ailleurs, à la fois en termes idéologiques, mais également en termes de tutoriels, par exemple, hein, de tutoriels de sécurité en ligne, de tutoriels d'armes, de tutoriels de mode opératoire d'attaque, etc. Voilà, donc pour revenir sur le deuxième point de votre question et la construction de la machinerie médiatique de l'État islamique. Et je crois que un élément important, c'est de comprendre comment cette machinerie médiatique, en fait, est l'expression d'un positionnement particulier de l'État islamique. En fait, l'État islamique a développé un positionnement à plusieurs titres, en rupture avec les groupes djihadistes qui existaient jusqu'au moment de son avènement, à la fois en termes stratégiques, en termes idéologiques et en termes de recrutement. Je m'explique. En termes stratégiques, l'État islamique, l'un de ses buts, c'est de bâtir un califat par la force, dans une temporalité courte. Ça s'oppose à Al-Qaïda, qui est effectivement lui aussi dans la volonté de bâtir un califat, mais dans une temporalité plus longue, et en conquérant plus les cœurs et les esprits. Deuxième chose, l'idéologie. L'État islamique est dans une idéologie d'excommunication assez systématique des non-musulmans, puis des non-sunnites, en particulier des chiites, et parmi les sunnites, de ceux qui ne rejoignent pas son dogme. Al-Qaïda est dans une optique différente, il ne va pas cibler de façon systématique ces populations-là. Et troisième élément, le recrutement. L'État islamique est dans une perspective de recrutement très large. Le vivier de recrutement de l'État islamique est très large par rapport à celui d'Al-Qaïda qui est plus élitiste, on va dire. Donc, si vous voulez, l'État islamique a une approche qui est beaucoup plus agressive avec un recrutement tous azimuts, quand Al-Qaïda est davantage dans une approche idéologisée plus cérébrale. Et ça va se décliner en fait dans la machinerie médiatique mise en place par l'État islamique. Ça va se décliner à plusieurs égards, ça va se décliner en termes de format. L'État islamique va produire tout type de format, des vidéos, des audios, des anachides, des vidéos courtes. Des anachides, ce sont des chants a cappella dont sont friands les djihadistes.
L'État islamique produit littéralement des chants qui ont vocation à être pris ensuite.
Bien sûr, oui, des chants, ça peut être des chants de guerre, des chants sur la religion, des chants pour des chants d'intimidation pour galvaniser les sympathisants, etc. Il y a toute une gamme d'anachides qui sont produites. Donc, vous avez une très grande diversité des formats. Al-Qaïda, lui, était plus dans des formats un peu statiques, longs, sans effets spéciaux, etc. Là, on change de paradigme.
C'est-à-dire le long monologue face caméra d'un leader connu, quoi.
Voilà. Voilà, le court. En termes de format, donc on a une grande diversité. En termes de production, on est dans du nombre. À l'apogée du califat, en août 2015, on était à 700 publications médias dans le mois. Donc c'est vous dire le volume considérable constitué par cette production. Al-Qaïda est plus dans une production ad hoc, plus parcimonieuse, voilà, plus ciblée. Ça c'est en termes de production. En termes de dissémination, l'État islamique va rechercher la viralité. Donc il va aller sur tout type de plateforme, mais il va essayer de privilégier les plateformes virales. Quand Al-Qaïda va plutôt chercher des plateformes qui ont une certaine stabilité. En termes de contenu de production, l'État islamique va avoir une grande, grande variété de thèmes, que ce soit la victimisation, l'utopie califale, l'effet d'armes, l'ultra-violence aussi, une diffusion de l'ultra-violence qui n'est pas diffusée par Al-Qaïda. Et en conclusion de tout ça, en gros, on peut schématiser l'organisation médiatique de l'État islamique comme une sorte de cercle concentrique. Celle d'Al-Qaïda serait plutôt une organisation en râteau, avec ces franchises qui ont chacune une agence, une fondation médiatique, donc Al-Andalus pour ACMI, Malahim pour ACPA, Zalaka pour Génim en Afrique.
ACMI, rappelons, c'est au Maghreb islamique, ACPA c'est dans la péninsule arabique, etc. Enfin, c'est les franchises régionales de...
Les franchises régionales d'Al-Qaïda, As-Sahab pour Al-Qaïda centrale. Et donc ces franchises vont avoir une certaine liberté, vont avoir chacune leur charte graphique, chacune leur type de production différent, alors que l'État islamique a bâti un système médiatique beaucoup plus centralisé, avec au cœur du réacteur quelques fondations médiatiques, Nashir, Al-Hayat, Maktaba Talima, Amak, plus ou moins, on peut maintenant la mettre là-dedans, et va fonctionner donc en cercle concentrique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un premier cercle de traducteurs affiliés à l'État islamique, et puis ensuite une constellation de fondations médiatiques qui sont liées plus ou moins, ou affiliées plus ou moins à l'État islamique, et qui vont donner de l'ampleur à ces contenus et les diffuser à un plus grand nombre, voire elles-mêmes produire leurs propres contenus. طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتيم صوت جميل صدى صليل الصوارم.
Alors je vais simplement faire un petit commentaire et un avertissement sur la musique, une fois n'est pas coutume, puisque c'est un extrait audio qui a un statut un peu particulier. C'est un anachid, donc un de ces chants a cappella dont on parlait il y a quelques minutes avec Laurence Binder. Donc je vais simplement préciser que c'est évidemment un chant de propagande de l'État islamique et que j'en passe un petit segment simplement à viser d'illustration, puisque Laurence Binder en parlait pour qu'on voit à quoi ça ressemble, mais qu'évidemment ça n'est pas pour le diffuser, et naturellement ça ne vaut en rien approbation ou validation du contenu. J'espère bien que ça va sans dire, mais j'imagine que ça va mieux en le disant. C'est donc valable pour ce premier extrait, c'est aussi valable pour le second, même si bon, vous verrez, c'est une ambiance assez différente. Alors du coup, parler de ce contenu, de ses formes et de ses relais, ça recoupe un phénomène intéressant qui est vraiment allié avec le contexte géopolitique très concret du moment, qui était celui de la guerre civile en Syrie, qui était celui d'affrontements entre les forces de Bachar al-Assad, des forces rebelles, et puis là-dedans le phénomène djihadiste et l'État islamique qui s'est rajouté là-dedans et qui a complexifié le tout. Mais c'est-à-dire... À un moment, les choses étaient telles qu'il fallait aussi un peu passer par les réseaux sociaux pour avoir un certain nombre d'informations, notamment pour avoir des images de ce qui se passait en Syrie. Par exemple, je me souviens, à Alep, il n'y avait plus de journalistes, évidemment, à un moment, donc il fallait, mais les habitants, évidemment, continuaient à publier des vidéos en ligne de ce qui se passait. Et je me souviens très bien, plein de fois, tomber sur des vidéos sur Twitter, où évidemment c'était en arabe, donc je ne comprenais pas tout, c'était avant que Twitter propose de traduire, mais où on voyait des vidéos qui étaient très impressionnantes et au cœur de l'action. Et je me souviens même par soir, en milieu ou en fin de vidéo, qu'il y avait vraiment un truc de propagande à la fin qui n'était pas forcément visible tout de suite. Donc, dans quelle mesure est-ce que, comment dire, la rareté de l'information et par ailleurs cette espèce de porosité entre diffusion d'images et propagande a aidé ou en tout cas a fait partie du mode opératoire de l'État islamique dans ce contexte syrien?
Oui, on était en fait à ce moment-là à une époque où les grands réseaux sociaux n'intervenaient pas. Eux, ils sont dans les grands réseaux sociaux de la Silicon Valley, ils sont dans une optique, ils étaient en tout cas dans une optique libérale, libertaire en termes d'information, et ils se considèrent toujours comme des sortes de plombiers qui fournissent la tuyauterie sans intervenir sur les contenus qui sont publiés, donc un hébergeur plutôt qu'un éditeur. Et donc, évidemment, à cette période-là, on avait une sorte d'occupation de l'espace web par des éléments de propagande. Alors, il y a un phénomène intéressant qu'on peut développer là-dessus. On était à la période que vous citez, c'est-à-dire avant que les grandes plateformes ne commencent à intervenir. On peut dresser en fait un parallèle entre l'évolution de la propagande djihadiste, en tout cas la propagande de l'EI en ligne, et son évolution sur le terrain. À cette période-là, on a une occupation en Syrie, en Irak, d'un certain territoire pour former une sorte de proto-État. En parallèle, en ligne, on a une certaine occupation de l'espace web sur les réseaux sociaux, voilà, qui va être directement accessible en fait à une certaine audience. Et puis, sur le terrain, à la faveur des frappes de la coalition, on va avoir une mutation du proto-État vers un groupe insurrectionnel qui va avoir des activités de guérilla, des activités clandestines. De façon similaire, en ligne, on va avoir, dès que les grandes plateformes ont commencé à intervenir après les attentats de 2015, de janvier et de novembre à Paris notamment, on va avoir un reflux de cette propagande et un repli vers des applications plus confidentielles de messagerie chiffrée, en particulier Telegram, qui va jouer un rôle central dans les années suivantes, et depuis lequel ils vont mener des activités plus ou moins clandestine, c'est-à-dire que Telegram va servir de base arrière.
C'est vrai que c'était incroyablement accessible avant 2015, les vidéos, en plus c'était des formes qui étaient particulièrement frappantes, c'était des formes souvent à la GoPro, c'était des trucs qui ressemblaient à des images de films ou de jeux vidéo de guerre, c'était des trucs qui étaient très viraux, très attractifs, quoi, qui attiraient vraiment l'œil, et donc c'est vraiment à la faveur de 2015 que en gros, ça passait plus, les tuyaux se sont bouchés à ça, et du coup, il a fallu redéployer en quelque sorte la géométrie de l'État islamique en ligne.
Oui, 2015, c'est un tournant parce que les grandes plateformes ont commencé à avoir une certaine pression politique, une certaine pression juridique, éthique, se sont fait accuser d'être le porte-voix de cette propagande. Et donc l'intervention a commencé en 2015, mais met toujours longtemps à être mise en œuvre.
Mais alors juste pour rester là-dessus une seconde, qu'est-ce qu'ils proposaient d'autre en ligne ? C'est-à-dire, on sait qu'il y avait la dimension de recrutement qui était importante organisationnellement, et puis on en a évidemment beaucoup parlé parce qu'il y a eu la problématique de ceux qui partaient, ceux qui revenaient, etc. etc. Mais dans quelle mesure est-ce que c'était directement utilitaire pour l'État islamique pour convaincre des gens de venir en Syrie ou de faire des attentats d'ailleurs dans leur pays ? Et dans quelle mesure est-ce qu'il y avait un objectif plus large, disons, d'influence, d'établir un discours dominant, d'établir des relais en ligne, c'est-à-dire indépendamment de la situation de Daesh en Syrie et en Irak ?
Oui, alors, il y a plusieurs choses. Le message des groupes djihadistes a toujours été fondamental. On a un certain nombre de publications, de posters avec des slogans comme homme des médias, toi aussi tu es un mujahid. Ou alors le djihad médiatique c'est 50% du combat. Et dans les contenus qui sont diffusés, on a un certain nombre de choses. D'abord, on a les grandes lignes idéologiques de l'État islamique. Par exemple, c'est dans un discours d'Al-Adnani, un des anciens porte-parole de l'État islamique, qu'il a été recommandé aux personnes qui ne pouvaient pas faire la hijra, c'est-à-dire l'émigration sur zone, de mener un djihad dans leur pays d'origine. Par exemple également, c'est aussi lors d'une publication vidéo que Baghdadi est apparu d'abord en prédicateur dans la mosquée de Mossoul, et quelques années plus tard, en 2019, habillé plutôt comme un chef de groupe insurrectionnel, avec sa kalachnikov et son habit de guerre, etc. Donc ça donne un peu les grandes tendances du groupe, les grandes lignes stratégiques. Alors ça donne également l'idéologie intrinsèque, ce dont on parlait tout à l'heure, la victimisation, tous ces éléments-là. Mais également, en termes pratiques, Internet peut servir en quelque sorte de fonction support du djihad, au pluriel. Je m'explique. Notamment en termes de fundraising, On trouve un certain nombre de cagnottes en ligne, soit ouvertement destinées à des groupes djihadistes, soit de manière plus camouflée, on va dire. Mais voilà, c'est une petite source de revenus. D'autre part, Internet permet de constituer des fonctions support très directement tout au long de la chaîne logistique d'une attaque. Par exemple, on peut faire des repérages de cibles qu'on peut partager sur Internet. On peut mettre en relation des personnes pour constituer une cellule. Ça s'est vu lors de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, au cours duquel un prêtre a été assassiné dans son église. Les deux assaillants de Saint-Étienne-du-Rouvray s'étaient rencontrés via une chaîne Telegram qui appartenait à Rachid Kassim, qui était un prédicateur de l'État islamique français. Donc une mise en relation des personnes pour constituer des cellules. Également des tutoriels d'armes, d'utilisation d'armes ou de mode opératoire, comment tuer quelqu'un au couteau. Ça c'est en amont de l'attentat. On peut tout à fait imaginer, et ça s'est déjà produit malheureusement, la diffusion en direct d'un attentat, avec l'impact psychologique que ça peut avoir sur l'audience. Il ne faut jamais oublier qu'un des aspects du djihad médiatique, c'est de donner un écho, de magnifier les actions et de donner un écho psychologique beaucoup plus fort que l'acte lui-même auprès des populations. Donc la diffusion en direct d'un attentat, et en aval de l'attentat, tout ce qui est revendication, ou tout ce qui est discours d'allégeance de l'assaillant.
Mais alors, tout ça, ça nous permet, si on le connecte en plus à ce que vous nous disiez juste avant, c'est-à-dire sur cette espèce de repli, en tout cas de changement de profil, disons, de l'État islamique en ligne, ça nous renvoie vers un problème qui est central, c'est la question de leur surface médiatique. Avec ce corollaire qui est que plus ils sont visibles et plus ils sont vulnérables aussi nécessairement. C'est-à-dire, quand on recrute, en général, on essaye de parler au plus grand nombre et donc de diffuser, de contacter tous azimuts. Mais en même temps, quand on fait ça, on est forcément très facilement repérable, par exemple, pour les forces de l'ordre. Donc comment est-ce qu'ils gèrent en quelque sorte cette tension entre la nécessité d'être visible, d'avoir une surface, d'avoir une couverture médiatique, et en même temps l'impératif de rester discret, et donc de communiquer de manière relativement cryptée pour ne pas se faire prendre?
Tout à fait. D'ailleurs, il y a une étude qui montre de façon très claire la corrélation entre la présence sur les réseaux sociaux et l'échec d'une attaque ou l'échec d'une hijra, d'une émigration, parce que évidemment sur les réseaux sociaux on se fait repérer beaucoup plus facilement, notamment que sur les messageries chiffrées. Alors oui, l'État islamique, les groupes djihadistes de manière générale doivent faire un certain nombre d'arbitrages entre des objectifs et des contraintes. Un arbitrage fondamental, c'est effectivement la nécessité de faire émerger ces contenus, toujours dans l'optique de faire parler d'eux, de magnifier leur action, de recruter, pour la propagande par le fait, et de l'autre, de rester sous les écrans radars. C'est une première chose. Il y a également d'autres arbitrages qui valent la peine d'être mentionnés ici également, notamment par exemple, d'une part, l'attrait vers des fonctionnalités d'anonymat de Telegram, avec la nécessité de...
Mais alors, juste, on va en parler, on va parler un peu de Telegram quand même, parce qu'on y fait référence depuis tout à l'heure. Précisons pour les gens qui n'en sont pas familiers que Telegram, c'est une application de messagerie, de communication chiffrée, enfin, c'est une sorte de WhatsApp, mais plus chiffrée que WhatsApp, quoi. Alors, pourquoi, c'est-à-dire, comment est-ce que c'est apparu, cette Telegram, sa diffusion, son importance, et pourquoi est-ce que les groupes djihadistes s'en sont saisis à ce point-là?
Parce que Telegram, c'est une sorte de plateforme parfaite qui allie un certain nombre de fonctionnalités clés. C'est chiffré de bout en bout, en tout cas pour les conversations one-to-one. Ça constitue une sorte d'hébergeur, parce que vous pouvez charger des contenus dans Telegram de façon aisée, et des contenus très lourds. Très facilement.
Ou des vidéos, quoi.
Des vidéos longues. Vous avez la possibilité d'avoir des chaînes ou des groupes, donc des chaînes avec un émetteur et c'est-à-dire avec un discours unilatéral, un émetteur qui émet à des récipiendaires qui ne peuvent pas répondre, et des groupes qui correspondent grosso modo à des groupes WhatsApp. Donc ça fait à la fois figure de réseau social, d'hébergeur, et puis de messagerie. Donc ça allie toutes ces fonctionnalités. Vous avez une version web, vous avez une version sur le téléphone, vous avez une appli desktop. Donc c'est extrêmement confortable, c'est extrêmement maniable.
C'est intéressant, c'est ce que vous disiez par ailleurs, c'est le fait que c'est complètement chiffré en one-to-one, c'est-à-dire quand, pour une conversation de personne à personne. Mais c'est comme une métaphore du problème, c'est-à-dire plus le groupe est large, plus il y a le risque qu'il y ait quelqu'un qui ait le risque soit d'un infiltré, plus c'est vulnérable, plus c'est large, plus c'est vulnérable, alors que dans de l'unilatéral, c'est à peu près complètement sécurisé, quoi.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, les groupes djihadistes sont parfaitement au courant que les chaînes Telegram sont infiltrées par les autorités, par des journalistes, par des chercheurs. Voilà, ils le savent. L'idée, c'est de diffuser cette propagande. Ensuite, que ces chaînes soient infiltrées ou pas, c'est un autre problème. Mais si on en revient aux arbitrages, le deuxième arbitrage auquel je faisais référence tout à l'heure, c'était l'idée que, d'une part, il y a un attrait des fonctionnalités d'anonymat de Telegram, mais d'autre part, il y a quand même la nécessité d'avoir une authenticité des sources. Je m'explique. Par exemple, vous, Alexandre Jublin, vous pourriez très bien créer une chaîne Telegram Nashir, prendre le logo et diffuser des communiqués de l'État islamique. Et le récipiendaire lambda, comment est-ce qu'il sait que derrière cette chaîne, c'est pas l'État islamique, mais c'est quelqu'un d'autre ? Donc il y a cette dialectique entre la nécessité d'être anonyme d'une part et d'assurer l'authenticité des sources.
Ah oui, et qu'en plus, si moi, par exemple, je faisais partie des forces de l'ordre, ce qui est...
Par exemple, on peut très bien imaginer des opérations de...
C'est-à-dire que moi, je diffuse des choses et qu'au bout d'un moment, je demande adresse et numéro de téléphone et que... Enfin, une sorte de piège, une sorte de piège à souris, quoi, par...
Bien sûr, ou alors tout simplement que pour perturber les opérations en ligne, vous diffusiez des fake news, des fausses informations. Ils ont été confrontés à des fausses informations, à des faux comptes, des faux journaux. Ça a été un de leurs soucis. Et on en a pas un peu parlé tout à l'heure. Donc le troisième arbitrage, c'est comment conserver un discours serré, centralisé, tout en s'appuyant sur cette galaxie de fondations médiatiques qui gravitent autour du réacteur central. C'est-à-dire comment faire en sorte que ces fondations médiatiques ne dévoient pas le message, ne dévient pas du message central. Voilà. Et donc, tous ces éléments-là vont dicter un peu la conduite à tenir de l'État islamique en ligne. Si on revient au premier élément que vous mentionniez, le premier arbitrage entre l'émergence et la nécessité d'avoir une sécurité opérationnelle, ça va déterminer un mouvement de balancier permanent entre le deep web, donc le web des messageries chiffrées, et un web plus surfacique, l'internet que l'on connaît, l'internet des réseaux sociaux, des sites web, etc. Donc il va y avoir un mouvement de balancier permanent.
C'est-à-dire qu'il faut avoir des chaînes Telegram, mais il faut avoir un compte Twitter aussi.
Voilà, pour faire émerger votre propagande, vous devez... avoir ce mouvement de balancier.
Parce qu'il faut bien, il faut bien un moyen de les ramener vers les chaînes Telegram, de ramener un public vers une chaîne Telegram. Quoi.
De ramener un public vers les chaînes Telegram, mais surtout de faire émerger cette propagande au plus grand nombre. Et ensuite, évidemment, de les canaliser pour, de façon à faire gonfler votre vivier sur Telegram. Et donc, pour ce faire, l'État islamique a développé tout un tas de tactiques, de techniques qu'on peut appeler une sorte de technique de guérilla, ou de guerre d'usure et d'attrition en ligne. Il ne faut pas oublier qu'en ligne également, on est dans le paradigme du faible contre le fort et que l'État islamique doit faire face aux services de renseignement, à la censure des plateformes, à des actions de la société civile ou de groupes de hackers, etc. Il est en situation de faiblesse. Et donc il va développer tout un tas de tactiques pour faire émerger ces contenus sur le web surfacique. avec des comptes que certains chercheurs appellent des comptes inrimasi. Alors des inrimasi, dans le vocabulaire militaire de l'État islamique, c'est un combattant qui va percer les lignes ennemies pour essayer de faire le plus de victimes possible au sein des lignes ennemies, tout en essayant de s'en sortir, à la différence d'un martyr qui va provoquer spontanément sa mort de façon sûre. Et donc, on a des comptes inrimasi qui vont essayer de percer cette censure sur les grands réseaux sociaux pour y faire émerger leur contenu de façon plus ou moins pérenne. On sait qu'au bout de quelques jours, voire de quelques heures, ces contenus seront supprimés. Mais voilà, l'idée, c'est de percer les lignes ennemies. Et alors, il y a tout un tas de tactiques, qu'on peut rapprocher des tactiques de guérilla. Le harcèlement, avec la production d'un très très grand nombre de contenus, ou alors un très très grand nombre de liens où ces contenus sont uploadés. Le camouflage, avec par exemple la création de fondations médiatiques apparemment neutres ou à vocation simplement informative, mais qui en fait subrepticement transmettent des contenus djihadistes. Voilà, donc camouflage, harcèlement, fugacité avec le passage d'une plateforme à l'autre, très rapide, et fugacité également avec des contenus fugaces. Je parle notamment des stories sur Facebook ou sur Instagram qui ont des durées de vie très limitées et où les algorithmes des réseaux sociaux sont moins performants pour aller repérer des contenus. Donc on envoie ces contenus-là et on fait en sorte qu'ils restent de manière éphémère dans fractuosité. Separate me and my Salah. They do not understand what is between I and Ra. Those who disobey the Torah and suck the gospel say I'm too harsh, cause I believe and I'm hostile towards those who practice not that which they preach, towards those who learn not that which they preach. Mais alors, cette question de la vulnérabilité liée à leur surface et de manière générale de ce qu'ils font pour se dissimuler ou en tout cas pour pas trop prendre de risques, ça pose la question de ce que c'est qu'être vulnérable, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que se faire prendre pour eux dans ce contexte. Ce que je veux dire, c'est est-ce que ça peut mener, est-ce que ça mène à des arrestations, à des choses très physiques, quoi, ou est-ce que c'est simplement des opérations qui visent à faire tomber ces canaux, à les priver de leur surface médiatique, comme sur Telegram. Par exemple, il y a à peu près un an, il y a une très grosse opération d'Europol qui a fait tomber beaucoup de canaux Telegram utilisés par les djihadistes. Donc voilà, comment est-ce que... C'est quoi se faire prendre, se faire... c'est quoi tomber pour une propagande djihadiste ? Il y a, dans cette lutte-là, il y a une multiplicité d'acteurs qui ont parfois des intérêts qui peuvent être... qui peuvent ne pas converger. D'une part, vous avez des acteurs, bon, je dirais... les plateformes pour qu'on les punisse pas, pour qu'on les on leur fasse pas subir des amendes ou des choses comme ça, ont intérêt à supprimer ces comptes. On a d'autres acteurs évidemment qui ont intérêt à identifier les personnes qui sont derrière ces comptes. Ensuite, au sein de cette deuxième catégorie d'acteurs, vous avez des acteurs qui ont besoin d'alimenter des procédures judiciaires et dès qu'il y a un contenu un peu problématique, sont pour identifier la personne et faire tomber la personne, faire arrêter par exemple. Ça s'est déjà vu. On a déjà vu un certain nombre d'arrestations dues à des publications, soit sur les réseaux sociaux, soit même sur Telegram. Ça a été annoncé en 2018 par le ministère de l'Intérieur qui a annoncé l'arrestation d'une personne qui préparait un attentat à la ricine et qui avait été initialement repérée par Telegram. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Récemment...
Puisque Telegram est si crypté, etc., comment il repère quelqu'un sur Telegram ?
Alors le craquage de Telegram, c'est quelque chose qui est assez assez obscur et
mais ça se craque, hein, dans une certaine.
Je pourrais pas en parler parce que je pense que ce sont des éléments très très techniques. Et mais ça s'est déjà vu. En tout cas, ça a été annoncé comme tel. Alors ensuite, il est aussi possible de faire le rapprochement entre un compte Telegram et un compte Facebook, si la personne a le même nom, par exemple. Ou voilà.
Mais c'est pas juste les plus idiots qui sont arrêtés. Enfin, ceux qui prennent vraiment absolument aucune précaution.
C'est quand même, je pense que c'est quand même corrélé. Si vous faites en sorte de naviguer uniquement par Tor ou avec un VPN de façon permanente, vous avez forcément moins de chances de vous faire repérer que si vous n'avez pas de...
Tor et VPN, précisons que ce sont des protocoles d'anonymat, de ne pas passer par le web généraliste, ce qui laisse beaucoup moins de traces à plein de niveaux différents.
Voilà. Donc je pense qu'il y a une corrélation très très forte entre la sécurité opérationnelle et votre sécurité, sécurité opérationnelle en ligne et votre sécurité physique. Et d'ailleurs, il y a une très grande hétérogénéité au sein de la mouvance djihadiste sur ces éléments de sécurité en ligne. Et il y a très régulièrement des tutoriels qui sont distribués pour faire attention, pour télécharger des VPN, pour passer par tel navigateur, etc. Pour sensibiliser en fait cette population-là aux risques qu'ils prennent par Internet.
Mais alors si on se place simplement du point de vue des forces de l'ordre, est-ce qu'il y a la force de frappe, enfin, on sait que pendant très longtemps ça a été un problème, c'était presque comiquement sous-dimensionné les unités qui étaient affectés à la surveillance d'une galaxie djihadiste gigantesque, il y avait au fond assez peu de gens qui étaient complètement dédiés à ça. Est-ce que maintenant, ces effectifs ont vraiment augmenté? Est-ce que les forces de l'ordre, je sais pas, ont les moyens de suivre, de monitorer vraiment l'océan de ce djihadisme en ligne, quoi?
Je reviens juste, si vous le permettez, sur un élément que vous aviez précédemment cité, qui est en fait la problématique de déconfliction entre les différents acteurs. C'est-à-dire que vous avez des acteurs qui ont intérêt à alimenter des procédures judiciaires, mais vous avez aussi, comme dans la vie réelle, hein, des acteurs qui sont plus dans une optique de surveillance et de mapping du réseau, qui ont intérêt à continuer cette surveillance, à n'arrêter personne tant que c'est pas hyper dangereux, et à essayer d'établir une sorte de cartographie du réseau pour ensuite réaliser un coup de filet de plus grande ampleur. Donc il y a on retrouve en fait les problématiques, d'infiltration, de renseignement de la vie réelle, on les retrouve exactement de la même manière en ligne. Ensuite, pour les effectifs qui sont dévolus à cette problématique, bon, il y a des entités au ministère de l'Intérieur. La première entité, c'est Pharos, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Il y a également d'autres entités. Je reviendrai sur Pharos. Il y a au ministère de l'Intérieur, il y a évidemment également la DGSI, hein, qui suit ces éléments-là, j'imagine. Et ensuite, au ministère des Armées, vous avez également des entités qui suivent ça. Il y a la DGSE, il y a la DRM, qui est un département cyber. Vous avez le Com Cyber, etc. Pharos, c'était jusqu'à présent 28 personnes, 28 enquêteurs. En 2019, Pharos a reçu 228 000 signalements.
Oui, c'est ça. Rappelons que Pharos, c'est une plateforme, c'est la plateforme qui reçoit les signalements pour des activités, des signes de radicalisation, en tout cas en ligne, quoi.
Voilà. Qui va ensuite soit décider de faire tomber, de supprimer un site, un compte, une page, ou alors d'aller enquêter plus loin, et de pas forcément la faire tomber tout de suite, mais d'aller enquêter plus loin. Donc Pharos reçoit en 2019 228 000 signalements pour 28 personnes. Ça fait plus de 620 signalements par jour à traiter, ce qui est évidemment considérable. Parmi ces signalements, il n'y a pas que du terrorisme, il y a aussi de la pédopornographie, il y a aussi de la haine en ligne, il y a des menaces de mort, enfin il y a beaucoup de choses. Et donc évidemment, dans l'océan des contenus djihadistes, c'est un effectif qui est obligé de prioriser et qui est obligé de sacrifier certains signalements. Suite à l'assassinat de Samuel Paty récemment et à la dynamique en ligne qui a conduit à cet assassinat, c'est-à-dire d'une part une campagne nominative qui avait été menée contre lui, qui a constitué aux yeux de certains une sorte d'offre de cible, et d'autre part une recherche de cible par le compte de l'assaillant, qui avait déjà été signalé à plusieurs reprises à Pharos. Donc, avec l'analyse de cette dynamique-là, le gouvernement a décidé de renforcer cet effectif d'une centaine de personnes, de lui adjoindre une entité qui sera liée au parquet de Paris pour accélérer les procédures, éventuellement faire passer les personnes en comparution immédiate, et ajouter également une section de contre-discours. Donc on est actuellement dans une dynamique d'augmentation des effectifs qui, évidemment, est tout à fait nécessaire.
Alors du coup, je vais rebondir sur ce que vous avez cité en dernier, c'est-à-dire parce que ça invite à détailler en quelque sorte l'éventail des mesures et des réactions qu'on peut avoir. Donc on l'a dit, il y a cette tension qui est une tension inhérente au renseignement, de savoir quand est-ce qu'il faut frapper, quand est-ce qu'il faut intervenir, et jusqu'à quel point est-ce que la collecte d'informations est en fait ce qu'il y a le plus précieux, parce que sinon ça risque d'être invisibilisé ailleurs. Mais on sait que ça a été une sorte de pivotage qui a été fait à un moment, de dire que ça suffisait pas de faire du répressif, d'arrêter les gens, etc., et qu'il fallait prévenir la radicalisation en ligne, il fallait favoriser la déradicalisation aussi, donc de créer ce que vous avez appelé des contre-discours, ou en tout cas des offres alternatives de discours, d'images, d'imaginaire en ligne. Donc pourquoi, c'est-à-dire que à quel moment est-ce que cette réflexion s'est déclenchée, de créer d'autres discours plutôt que simplement faire du répressif? Qu'est-ce qui a été fait et dans quelle mesure est-ce que ça marche, si on peut le savoir?
Bon, d'abord, on a encore relativement peu de recul en termes de retour d'expérience sur les campagnes en ligne qui ont été menées en France. Donc, pour avoir vraiment une réponse argumentée et circonstanciée à votre question. Les premiers contre-discours en France sont apparus en 2015, après les attentats de Paris. À l'époque, c'était des contre-discours très réactifs. C'était estampillé République française, et la première campagne de contre-discours, ça a été de mettre en opposition les promesses de l'État islamique par rapport à la réalité. Donc l'État islamique vous promet de vivre dans un califat magnifique, etc., mais avec des images en couleur. Mais en fait, la réalité, voilà ce que c'est, vous allez mourir seul loin de chez vous avec des images en noir et blanc. Cette campagne, d'abord parce qu'elle était estampillée République française, a eu un succès mitigé. Elle a eu comme immense avantage de sensibiliser les familles au phénomène des départs et des volontés, des velléités de départ. Donc ça a été un plus de cette campagne. Ensuite, en termes de contre-discours, ça ne pouvait pas s'adresser à des personnes qui avaient déjà un discours construit, une idéologie bien, bien ancrée. Ensuite, il y a eu une deuxième campagne dont le hashtag était « Toujours le choix » et qui s'attachait à décrire le processus incrémentiel de radicalisation et à arrêter la caméra de façon régulière pour dire « Là, qu'est-ce que vous faites ?» Est-ce que vous suivez cette personne qui va vous montrer des vidéos ou pas? On a toujours le choix. Voilà, il y avait des arrêts sur image, plusieurs arrêts sur image, et ça montrait donc les différentes étapes de libre arbitre de chacun. Donc c'était une campagne plus fine, et qui était également estampillée République française, qui a été immédiatement détournée. Le hashtag toujours le choix a immédiatement été détourné par les djihadistes francophones en hashtag pas le choix, regardez ce que la France nous fait, on n'a pas le choix, etc. Donc, voilà, je pense qu'il y a plusieurs difficultés en termes de contre-discours. D'abord, vous êtes face à une immense volumétrie de l'autre côté. Vous ne pouvez pas vous produire avec ce même volume, surtout quand il y a un certain nombre de procédures de publication. C'est une première chose. Ensuite, il y a la problématique de la propagande blanche, c'est-à-dire la propagande signée. J'appelle ça de la propagande, mais on va appeler ça des contre-discours signés d'un gouvernement qui s'adresse pas du tout aux personnes qui sont déjà radicalisées. Il y a également d'autres éléments. Ce qui se passe, c'est que la propagande djihadiste, et même la propagande islamiste radicale, mais la propagande djihadiste, a des thèmes récurrents, des sortes de leitmotivs dans sa propagande, qui vont être alimentées de façon opportuniste par des faits d'actualité. Et ces faits d'actualité donc, alimentent ces grands thèmes de prédilection, et ça pourrait être des idées pour le contre-discours, et ça pourrait pallier le grand volume, parce qu'on sait que ces thèmes-là vont réémerger à un moment donné. Et donc, on est face à un certain nombre de grands thèmes qu'on peut traiter les uns après les autres.
C'est-à-dire, il est possible de faire un déblayage de fond pour éviter
Déblayage de fond sur des thématiques comme, en France, typiquement, la laïcité cible les musulmans, on essaie d'éradiquer l'identité, ou des choses comme ça.
Alors, puisqu'on parle de la problématique de ce qui est signé, de ce qui n'est pas signé, de ce qui émane d'un gouvernement ou pas, c'est-à-dire il y a plein d'internautes, il y a des citoyens qui se sont saisis de ça à un moment de ce combat. Alors, parfois, ça a pu se faire par la parodie, il y avait des faux comptes Twitter, des faux comptes islamistes qui étaient assez drôles. Mais aussi, c'est l'idée qu'il y aurait une sorte de guérilla numérique à mener pied à pied quoi, avec la galaxie djihadiste, c'est-à-dire en combattant, en se moquant, etc., mais aussi, du coup, en signalant les comptes djihadistes, c'est-à-dire l'idée que il faut que ça passe par la société civile et par des activistes de l'Internet, au lieu de laisser ça, disons, entièrement à la charge de l'État, quoi.
Et étant donné, vu la volumétrie, ça ne peut pas être limité à du régalien, ça c'est certain. Il y a eu, effectivement, vous le signalez, à juste titre, beaucoup d'initiatives de la société civile, à la fois de contre-discours humoristiques. Je pense à la Katiba de Narvalos en France, qui ne fait pas que du contre-discours humoristique, qui va aussi rentrer dans les chaînes et perturber la diffusion de cette propagande. Donc ça va plus loin pour la Katiba de Narvalos. La partie humoristique n'est que la partie immergée de l'iceberg. En Angleterre, il y a eu des campagnes vidéo qui s'appelaient The Real Housewives of ISIS, qui ont été des vidéos humoristiques, qui ont eu un succès plus ou moins mitigé. Et donc, effectivement, la société civile doit également, sur Internet, être une société de la vigilance, pour reprendre le terme du gouvernement. Mais je crois qu'il y a également un rôle primordial qui doit être reconnu au secteur privé, tant au niveau des plateformes qu'au niveau des entreprises. Je m'explique. Au niveau des plateformes, les plateformes ont commencé à titre individuel à intervenir en 2015, comme on l'a déjà évoqué. Et à partir de 2017, les grandes plateformes, les grands réseaux sociaux se sont structurés autour du GIFCT, c'est le Global Internet Forum to Counter Terrorism, et partagent un certain nombre de données, notamment une base de contenu djihadistes auxquels sont attribués une empreinte numérique unique. Donc quand un contenu émerge par exemple sur Facebook, Facebook va alimenter cette base qui est également consultée par Twitter, et donc Twitter va pouvoir prévenir l'émergence de ce contenu parce qu'il aura son empreinte numérique unique. Alors, il y a des tas de techniques pour circonvenir à ça, hein. Une empreinte numérique unique d'une vidéo, il suffit de rendre votre vidéo un peu plus courte et voilà, vous pouvez contourner ça. Mais pour une majeure partie des éléments de propagande, ça fonctionne. Ça, c'est du côté des plateformes qui utilisent des algorithmes, l'intelligence artificielle, donc la reconnaissance optique également. Et il y a également une sorte de nouveauté, et ça, c'est plutôt côté haine en ligne, qui est l'action des entreprises. On a vu une campagne récemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grands réseaux sociaux ont beaucoup de pression sur tout ce qui est contenu djihadiste. On avait moins sur tout ce qui était haine en ligne, néo-nazis, suprémacistes blancs, etc. Et qu'il y a eu une campagne qui a été menée par des entreprises qui ont cessé de financer les grandes plateformes avec des revenus publicitaires tant qu'elles n'interviendraient pas contre les contenus haineux. Et ça a commencé à fonctionner cet été, avant l'été. Et donc on voit là de plus en plus une intervention des grandes plateformes contre ces contenus haineux du fait de cette pression financière des entreprises.
Mais alors, pour en quelque sorte faire un bilan, si c'est possible, c'est-à-dire on voit ces mouvements, on voit bon, ce reflux sur le temps long quand même de l'État islamique, on voit la diversité des mesures qui est applicable à une sorte de montée en puissance quand même, disons, d'une manière générale. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire où on en est de ce combat contre cette propagande djihadiste en ligne, à présent, 5 ans après les attentats de novembre 2015, mais aussi quelques jours après, vous l'avez rappelé tout à l'heure, un attentat en région parisienne, à Conflans, qui de toute évidence avait une immense dimension en ligne, pas forcément, c'est pas exactement la même chose que des attentats commandités par l'État islamique, mais c'était quand même un événement qui a une dimension numérique évidente. Donc, est-ce que c'est possible de savoir, de mesurer, au moins d'avoir une idée un peu précise de ce que c'est que le djihadisme en ligne à un moment donné?
Alors, pour répondre à votre question, je crois que dans le contexte actuel de ces dernières semaines, on est dans une bulle particulière, une bulle de tension particulière qui a débuté début septembre avec la republication des caricatures du prophète Mahomet à l'occasion de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015 et qui a été ensuite accentuée par le refus d'Emmanuel Macron de condamner ces caricatures, par un premier attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, ensuite le discours d'Emmanuel Macron sur les séparatismes et qui a un petit peu encore accentué ça, et l'attentat de Conflans qui a galvanisé, en fait, la djihadosphère. Et l'attentat de Nice, également, dans une moindre mesure, je dirais, qu'il a galvanisé cette djihadosphère. Donc, on est là, dans une sorte de bulle que je retirerais, si vous voulez, de la tendance globale, parce que c'est vrai que cette spirale a suscité de très très nombreuses publications, une sorte de regain, ça a réalimenté, ça a remis une pièce dans la machine, tant au niveau djihadiste que hors de cette sphère djihadiste, dans la sphère islamiste radicale, et même au-delà, hein, dans la sphère politique. Il y a eu de multiples condamnations de la republication de ces caricatures. Donc actuellement, on est dans une sorte de période d'ébullition particulière. Maintenant, si on prend du champ et qu'on regarde les tendances de la propagande depuis 2015, évidemment, on est dans un net reflux, à la fois en termes d'accessibilité, de surface de contact entre un individu lambda qui ne saurait pas où chercher et ce qu'il peut trouver sur Internet. Donc ça, on est vraiment dans un très très fort reflux. Évidemment, on est aussi dans un fort reflux en termes de volume de publications nouvelles. Je vous disais qu'en août 2015, on était à plus de 700 publications médias. Par mois, on est à quelques publications. On est à très très peu. On est également...
Mais est-ce que du coup, moins il y a de publications, plus elles sont partagées? Est-ce qu'il y a un effet de concentration? Donc il y a moins la masse, il y a plus cet effet de masse et de marée. Mais est-ce que du coup, les quelques publications qui percent plus? Enfin, j'en sais rien.
Et alors, oui, bonne question. L'opération d'Europol de novembre 2019 a eu un rôle tout à fait primordial dans ce qui se fait actuellement en termes de propagande. C'est-à-dire que cette opération, pour rappeler en 2 minutes, a purgé Telegram des contenus djihadistes. Et on pensait que ça allait être... Enfin, on pensait... On ne savait pas quelle serait la durée de cette opération. Et en fait, cette opération n'a pas duré que quelques jours ou quelques semaines, elle s'est pérennisée. C'est toujours très difficile de revenir sur Telegram, bien que les djihadistes essaient régulièrement de revenir sur Telegram, recréer des chaînes qui ont une longévité courte, etc. Mais ils essayent régulièrement de revenir sur Telegram. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné un grand coup de pied dans la fourmilière, Europol a donné un grand coup de pied dans la fourmilière, et tout s'est éparpillé, et fragmenté, et atomisé sur des plateformes plus confidentielles. Et donc, il y a eu une sorte... à la fois de phénomènes de confinement de ces contenus, tout en accentuant la pression sur le web surfacique, parce qu'il fallait bien que ces contenus émergent quelque part. Donc il y a eu une sorte de phénomène contradictoire. Mais grosso modo, la propagande actuelle est beaucoup plus difficile à suivre parce que plus atomisée et sur des plateformes qui sont plus confidentielles qu'avant.
Merci beaucoup, Laurence Binder.
Avec plaisir.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je signale par ailleurs à ceux qui l'aurez raté, qu'on a désormais enfin repris le rythme de 2 podcasts par semaine avec les divers formats du vendredi, et notamment les récits d'opérations qui ont repris la semaine dernière et que vous pouvez évidemment trouver sur le fil du podcast. Comme d'habitude, je vous rappelle que vos commentaires sont toujours autant appréciés, vous pouvez nous les envoyer par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme sur Apple Podcast, où les notes et les commentaires nous font grandement plaisir et nous aident à avoir des retours sur l'émission, comme ils aident le podcast à gagner en visibilité et en audience. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.